des.
Hey, moi, là, m'a dit le vin américain, j'en veux plus, tu sais, c'est...
Ah, ben moi, j'en bois du Californien.
Comment ça, tu bois du Californien?
Ah, ben moi, j'en bois du Californien.
Ah, ben moi, j'en bois du Californien.
Comment ça,
tu bois du Californien?
Ah, ben moi, j'en bois du Californien.
Ah, ben moi, j'en bois du Californien.
C'est un autre qui a posé sa tête, hein?
Live. Avec Dominique Morin.
En blazer.
Radio. X.
Vous nous écrivez au 88-670-9098 pour nous dire ce que vous voyez sur les routes au plan circulation. On est en plein warm-up, là. On est en train de se préparer tranquillement, mais sûrement pour la rentrée. On se rend compte que c'est vraiment là où il y a des chantiers de construction, c'est problématique. Mais c'est pas grave, ça l'est pour vrai. Là, Henri IV Sud à la hauteur du chemin Sainte-Foy, Lavin à la hauteur de Taniata et l'axe Laurentienne Capitale. Il n'y a pas de raccourci pour sauver du temps, mais il y a une façon simple de sauver de l'argent. Combinez vos assurances auto et habitation chez Bel Air Direct et économisez.
Mesdames, messieurs, Mathieu Bas-Côté. Salut Mathieu, comment ça va?
Bonjour, ça vient toi?
Très bien. Donc, en guise de présentation officielle, on va te parler régulièrement cette saison et très régulièrement durant la campagne. Est-ce que la campagne est commencée ou pas? On dit que ça commence officiellement le 27 août, mais là, on est rendu à des sondages quasi quotidiens, Mathieu.
Ah non, mais elle est déjà commencée. Ensuite, on ne doit pas se tromper sur une chose, les sondages. Bon, moi, je ne dis pas que les sondages ne nous disent rien de la réalité des choses, mais les sondages dans notre société ont moins pour fonction de nous dire ce que nous pensons que ce que nous devons penser.
Très
et moi,
bon.
Ce qui me frappe avec un sondage aujourd'hui, c'est moins leur caractère descriptif que très rapidement, ils servent à nous conditionner. Donc hier, par exemple, il y avait le sondage sur qui était le Léger, qui est un sondage, bon, le Léger travaille bien en général, donc la question n'est pas là, mais qu'en disaient les commentateurs plus largement? Et là, c'était gouvernement minoritaire, minoritaire, minoritaire. Donc, on répétait sans cesse la chose, comme si une partie du commentariat veut présenter l'élection comme un match sportif, puis ils veulent le décrire en disant « remonter par-ci, remonter par-là, passe à gauche, passe à droite ». Et on s'intéresse moins au discours des partis, au programme des partis, à la vision des partis, à la situation du Québec, que l'espèce de commentaire du match, comme si on était dans la version 27 de l'ancien compte. Donc ça me semble que c'est la première chose que je note en ce moment. La deuxième, par ailleurs, c'est que cette élection-là, on la traite un peu sur le mode, d'emphase bizarre. Donc, Mme Fréchette, lorsqu'elle s'exprime, nous dit « Je serai le bouclier qui nous permettra de résister à Trump ». C'est au moment où on voit Marc Carney multiplier les simagrées pour se donner l'impression d'être celui qui tient tête à Trump. Et là, alors qu'il s'efface, il n'en est tout simplement pas capable pour mille et une raisons qui se relèvent de la puissance du Canada. Là, on est dans Christine Fréchette qui cherche à nous faire une Marc Carney. Donc, on cherche à nous refaire ce qu'on nous a fait au Canada depuis il y a un an et demi. La même chose, je dirais, avec la même complicité d'une bonne partie du milieu médiatique qui veut nous faire une Marc Carney. Donc, je trouve que c'est les deux éléments lourds qui se dégagent dans les premiers jours de cette campagne qui n'est pas encore officiellement déclenchée, mais qui est bien réelle.
Et tu as vu la nouvelle campagne publicitaire de Fréchette où on la montre. Et on le savait que ça servait à ça. Mais elle voulait absolument, entre autres, rencontrer Macron. Macron qui ne connaît pas du tout Fréchette, parce qu'on va se le dire, Macron, et tu le sais plus que moi, a beaucoup de choses dans son assiette. Donc, Mme Fréchette n'est pas dans son top 20, top 30 de ses priorités. Donc, elle s'est fait poser avec lui, elle s'est fait photographier avec un tel, dont Carney. Et là, elle joue à la madame qui est importante. Regardez comment je suis bonne, on me reconnaît à l'international et tout. Il y a quelque chose de ridicule là-dedans, d'autant plus qu'il y a une esquive, il y a une grande esquive également. Oui, vous comprenez, j'étais avec Fitzgibbon quand il a fait ses gaffes. Mais j'ai rien à voir là-dedans. Oui, j'étais avec Legault, mais j'ai absolument rien à voir là-dedans. Un jour, je pense que la réalité va la rattraper.
Ben moi, ça me fait péter les plombs, bien franchement. Parce que, premier élément, effectivement, on comprend que l'essentiel des visites à l'international ces derniers mois servait simplement à tourner du stock publicitaire pour sa campagne. Donc là, on veut nous dire, il y a sur Terre des figures politiques importantes, et parmi celles-là, il y a Christine Fréchette. On dit, on se calme un peu, ne nous prenez pas pour des imbéciles à temps plein. Premier élément. Deuxième élément, moi, ce qui me frappe, c'est le rapport à l'héritage ou au bilan de la CAQ. Donc là, la coalition Avenir Québec n'existe plus dans le discours public. Il existe l'équipe Christine Fréchette, la coalition. Donc, on est passé de la CAQ à l'ECF. Oui. Donc, est-ce qu'on est devant des ectistes, des excités, des je ne sais pas trop quoi. Donc là, Mme Fréchette veut nous faire croire que la CAQ ne dirige pas depuis 8 ans. Elle veut nous faire croire qu'elle n'a pas rejoint ce parti en assumant son héritage en 2022. Elle veut nous faire croire que ce parti, que les grandes décisions de la CAQ, elle n'y est pour rien, que le bilan de la CAQ, elle n'y est pour rien. Alors là, à un moment donné, il faut être sérieux. Elle a été solide. On nous l'a présentée depuis le début comme une grande figure économique, une figure du développement économique, alors que Mme Fréchette, qui est certainement une femme de qualité personnellement, Mme Fréchette, c'est pas une grande figure du développement économique. Elle fait partie de la mouvance des technocrates militants. Elle vient de la mouvance globalement fort jeunesse au début des années 2000. Elle va avoir plusieurs postes dans la technostructure québécoise. À un moment donné, elle va être PDG de la Chambre de développement, Chambre de commerce ou quelque chose comme ça de l'Est de Montréal, qui, par ailleurs, que je sache, n'est pas exactement SpaceX non plus. Donc, c'est une technocrate qu'on nous a présentée désormais comme une grande figure du développement économique, comme si elle n'a rien à voir avec les décisions de son gouvernement.
Ben oui.
Ensuite, elle a été responsable de l'immigration, il ne faut pas se tromper. Et quand on parle aux caquistes, à ceux qui ne renient pas l'héritage caquiste pour le meilleur et pour le pire, ils nous disent que c'est elle qui a imposé à François Legault une politique migratoire dont il ne voulait pas, qui est responsable en partie de la noyade migratoire qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Donc, si Mme Fréchette n'assume pas son héritage en matière d'immigration, et plus encore, elle veut aller encore plus loin. Donc là, à un moment donné...
C'est un discours de Chambre de commerce aussi, en passant. Ça va dans la lignée philosophique Chambre de commerce, milliards. Donc, c'est très milliardien, tout ça. Les chambres de commerce, oui, on en veut, on en redemande des immigrants... Because cheap labor, because on manquerait de main-d'œuvre et on en a besoin. Donc, c'est vraiment dans cette lignée-là milliardienne.
Absolument. Puis si je peux me permettre, un directeur de chambre de commerce, là, c'est un fonctionnaire. Là. C'est un fonctionnaire de privé, entre guillemets. Mais c'est pas un directeur de chambre de commerce, c'est pas une grande figure économique absolument essentielle.
C'est un faiseux.
C'est presque un têteux de subvention, souvent.
Oui.
Donc, quand on voit ça... On est devant une espèce de séquence où on nous dit « Madame Fréchette, finalement, premièrement, elle est dans la classe des grands leaders mondiaux d'aujourd'hui. Deuxième élément, on nous dit c'est tout à fait nouveau comme chef, elle n'a rien à voir avec la CAQ qui dirige depuis 8 ans. Puis là, on cherche à nous imposer une forme de culte de la personnalité assez étonnante qui relève, puis je reviens avec cette formule, on veut nous faire une Mark Carney, on veut une forme de confiscation de l'élection sur un coup de publicité qui est censé nous tétaniser, nous sidérer. Donc, voyant tout cela, je me dis que la campagne va être difficile quand Mme Fréchette n'aura plus comme porte-parole une partie du système médiatique qui veut nous la vendre à la manière de la plus belle invention depuis le pain tranché. Et ça va être plus compliqué quand elle va devoir parler elle-même directement, quand elle va devoir parler des questions d'immigration, d'identité, de sécurité, d'économie, de gaspillage. Quand on va lui demander qu'est-ce que vous pensez de Pierre Fitzgibbon, de son héritage, que pensez-vous de l'héritage de François Legault, que pensez-vous des finances publiques du Québec, qu'en pensez-vous, Mme Fréchette, à moins que vous ne descendiez tout simplement du ciel et vous n'ayez rien à voir avec ce qu'on a vécu depuis 8 ans. Donc, franchement, l'espèce d'opération propagande autour de Fréchette, quoi qu'on pense de la CAQ comme parti, par ailleurs, c'est quoi leur programme, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans d'assez exaspérant.
Est-on obligé de parler de milliards? Oui, parce que c'est le Parti libéral, mais c'est une catastrophe au Québec français. Moi, j'appelle ça le Québec français, donc les comtés francophones. Le pharmacien et l'effet placebo.
Oui, oui, c'est pas mal. Mais non, dans les faits, moi, ce qui me frappe chez Milliard, en fait, c'est que le Parti libéral a beau avoir un score absolument insignifiant chez les francophones, il va être quand même l'opposition officielle presque assurément.
À cause des Thompson et des Grecs de Laval et des Italiens de Montréal.
Oui, mais en fait, puis si je peux me permettre, moi, pourquoi le Parti libéral est aussi favorable à l'immigration massive? À un moment donné, il faut se le dire, c'est qu'il importe les électeurs qu'il n'est pas capable de conquérir ici.
C'est vrai.
Donc, puis moi, je me rappelle, si on a un peu de mémoire, c'est pour ça que c'est toujours l'histoire qui peut nous intéresser, au début des années 2000, mettons plus, aux années 90, disons, j'ai pas le chiffre exact, mais sur 125 comtés au Québec, il y avait globalement 100-110 comtés qui étaient dirigés par, sous le poids du vote francophone, puis il y avait ensuite les châteaux forts habituels de la communauté anglaise. C'était le deal dans lequel on fonctionnait. Aujourd'hui, quand on parle aux sondeurs, on nous dit que 80 à 90 circonscriptions qui sont vraiment décidées par les francophones, peut-être 95, mais 80 à 90. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le poids des francophones au Québec baisse, le poids électoral des francophones baisse au Québec même, tout simplement. Donc, c'est plus seulement à la grandeur du Canada. Il y a des circonscriptions qui, désormais, vont voter rouge de manière automatique. Ça, c'est Laval, au nord de Montréal.
Oui.
Dans les prochaines années, ça va être les 4-5-0. Ce qu'on a vu à l'élection fédérale dans Terrebonne, c'est assez particulier. Terrebonne, c'est un château fort bloquiste et souverainiste et nationaliste, nous disait-on. Finalement, parce qu'il y a eu un vote communautariste dans Terrebonne, eh bien, le Parti libéral fédéral de Carney était capable de faire passer son gars, qui connaissait assez peu, pour le dire poliment, sa circonscription. Je suis même pas certain qu'il était au courant qu'il était candidat. Donc là, à un moment donné, la démographie a des effets électoraux, mais qui servent le Parti libéral. Et le Parti libéral n'a pas intérêt à ce que le Québec soit francophone. Plus le Québec est francophone, moins le Parti libéral peut prospérer. Donc le Parti libéral, de ce point de vue, on comprend ce qu'il mène.
Et quelle campagne plate aussi.
Ah,
est-ce qu'on peut dire aux politiciens que manger de la poutine, c'est pas ça? C'est pas ça faire une campagne? Là, il s'est fait filmer en train de manger de la poutine. Merde! Okay.
Nous prendre pour des oives. C'est nous prendre pour des oeufs.
Oui.
Carly, elle fait la même chose. C'est, on mange la poutine. Regardez comment on est proche de vous. On mange de la poutine. Là, je dis, OK. T'sais, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des activités genre sur le mode ludique. Là, ça fait partie de la vie. Mais là, l'argument de manger de la poutine, si l'élection est en hiver, il prendrait un bâton de tir d'érable.
Donc, c'est ça.
On a compris. Là, prenez-nous pas pour des idiots à temps plein. Là, t'as notre affaire. Donc là, il y a Duhem. Ça, je trouve que Duhem mène une bonne campagne en ce moment.
Oui.
Je sais que j'ai mes réserves sur la question nationale chez lui. Mais là, on a le système médiatique, une partie du système médiatique qui nous dit « Duhem, c'est véritablement le repoussoir ». Or, Duhem a réussi quelque chose. Il a réussi à consolider une partie du vote régional. Donc, il va probablement entrer à l'Assemblée nationale avec plus de députés qu'on le croit. Ce qui serait intéressant...
Oh! Combien, Mathieu, risque-toi?
Je vais aller au-delà du commentaire qu'on entend. On nous dit quelquefois un ou deux ou trois députés. Non, je pense que la possibilité d'avoir plus de députés que cela, je ne suis pas certain que son 12 soit réaliste, mais il y a la possibilité d'avoir plus de députés que cela parce qu'il a un ancrage régional. Donc son vote n'est pas dispersé à la grandeur du territoire comme le vote de la CAQ. C'est un vote qui peut se traduire politiquement. Et puis là, ensuite, moi, qu'on soit critique envers Duhem, puis je le suis et je le serai sur la question nationale assez souvent, le fait est qu'on pourrait le critiquer sans le traiter comme le bonhomme sauteur de la vie politique québécoise, sans en faire le repoussoir obligatoire de la vie politique québécoise. Une partie du système médiatique, encore une fois, espère faire avec Duhem une forme de version québécoise mini-Trump. Donc, c'est comme si on prononce le mot Duhem, puis on est censé avoir peur, et puis c'est réglé, n'en parlons plus. Ça, je pense que traiter Duhem respectueusement, c'est considérer qu'il était capable de traduire politiquement une aspiration qui existait dans la société québécoise et qui mérite d'être entendue, encore une fois, quoi qu'on en pense.
Je garde PSPP pour la fin. Que dire de Rubat Ghazal, qui réussit quand même à trivialiser, entre guillemets, QS? Là, on est vraiment en bas du 10, alors que Françoise David nous amenait autour du 15-16 avec Amir Kadir. Elle est en bas de 10 et solide.
Oui, mais ça, elle est drôle. J'étais à la joute hier, l'émission sur NCN à laquelle je participe depuis plusieurs années. Et là, ce qui était drôle, c'est qu'on entendait une vidéo de Mme Ghazal qui dit « Moi, je veux gouverner un gouvernement majoritaire ». À ce moment-là, à ce moment précis, on se dit « Bon, est-ce qu'elle est obligée, elle aussi, de participer à la comédie ?» J'ai souvenir que madame, ça représente la gauche radicale existe. Moi, je ne dis pas le contraire. Donc, que la gauche radicale existe, donc qu'elle ait une traduction parlementaire, j'ai pas de souci avec ça. Ensuite, on comprend qu'aujourd'hui, QS est un parti qui, s'il n'avait pas profité de la propagande de la radio-télévision fédérale pendant des années, si si le traitement médiatique de QS n'avait pas gonflé ce parti-là à l'hélium, eh bien, je pense que le QS aurait dégonflé depuis longtemps.
Oh, oui.
Et le fait est que quand on nous présente QS comme un parti de gauche et tout ça, c'est un parti de gauche radicale. C'est un parti de gauche radicale qui est complice, à tout le moins qui est complaisant envers l'islamisme, qui est un parti multiculturaliste, immigrationniste, anti-laïque, multiculturaliste pas à moitié. Et quand on voit ça, on se dit, ce parti, à un moment donné, a peut-être atteint son, la fin de sa vie utile dans la vie politique québécoise. Puis surtout, Mme Gazal, qui est une femme, probablement, encore une fois, personnellement, j'ai rien contre elle, mais politiquement, son discours est un discours qui est complètement décalé. Je me rappelle quand elle accusait M. Duhaime d'être d'extrême droite. OK. Donc là, on va nous jouer la cassette de l'extrême droite dans la politique québécoise aussi. Là. Duhaime qui veut globalement baisser les impôts, si j'ai bien compris, les baisser beaucoup, débureaucratiser, et pour le reste, une position plutôt mainstream sur bien des sujets, là, ce serait l'extrême droite. Bon, ça nous rappelle une chose, c'est que la gauche radicale a besoin de diaboliser et de maudire pour exister, sinon elle sent qu'elle n'existe pas. Si vous êtes de gauche radicale, vous ne traitez pas quelqu'un d'extrême droite une fois par jour, vous avez l'impression d'avoir gâché votre journée. On l'aura compris avec Mme Gazal.
Et que dire de PSPP? Maintenant, comment doit-il jouer ses billes? Donc, il est en situation minoritaire. Ouais. La souveraineté... sans dire qu'elle est au plancher, disons que ça a été déjà plus fort. On analyse le tout dans le sondage La Presse de ce matin, où on dit même que chez les électeurs péquistes, la souveraineté obtient 17 % parmi justement les valeurs qu'on priorise et les défis du Québec, là, entre guillemets. Là. Et le système de santé, dans les deux cas, le Québec semble vivre une obsession sanitaire. On est comme paralysé devant... Ah non, le système de santé! Ouais. On est comme... Moi, je veux pas d'une campagne électorale où on va parler des hôpitaux à tous les jours.
Ah, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve le conditionnement médiatique et sondagier depuis des années à nous dire que peu importe l'élection, peu importe le sujet du jour, la santé est le premier sujet. C'est le premier sujet. Or, je trouve surtout que c'est une description inadéquate de la réalité. Bien sûr que la santé, c'est important, mais quand on regarde les élections québécoises depuis, mettons, 2007, en 2007, le sujet qui surgit, qui bouleverse la vie politique, c'est les accommodements raisonnables. Ben, qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? L'ADQ monte sur les accommodements raisonnables. Oui. On peut apprécier ou non, mais tout le système médiatique nous disait que ça passionnait pas les gens. Ouais, ben manifestement, ça passionne les gens suffisamment pour qu'ils votent pour ça, sur ce sujet-là. La question, en 2018, la question de la laïcité a joué son rôle. La question de l'immigration a joué son rôle aussi. Donc, à un moment donné, moi, ce qui me frappe, c'est la volonté du système médiatique de tout faire, en fait, pour traiter les sujets identitaires comme des sujets secondaires. On nous dit quelquefois, l'immigration, oui, c'est un sujet qui intéresse pas les gens. Attends, l'immigration touche la question du système de santé, soit dit en passant, du système d'éducation, du logement, de la sécurité, de l'identité. Mais là, c'est comme si on découpe la réalité en fines lamelles sondagières pour qu'on réussisse à nous... pour on veut nous faire croire que la question de l'immigration compte pas. Donc là, j'en arrive à PSPP. Oui. Évidemment que la question de l'indépendance du Québec n'est pas la question qui passionne les Québécois aujourd'hui comme jamais. Je le constate et je m'en désole. La question nationale, par ailleurs, ne se réduit pas à la seule question référendaire. La question nationale aujourd'hui, c'est immigration, identité, laïcité. La question nationale aujourd'hui, c'est la question plus large de l'identité.
Oui.
Est-ce que sur ces thèmes-là, puis plus largement, liberté d'expression, insécurité, on a subi comme société une forme de coup de force démographique depuis une trentaine d'années. Sur ces sujets-là, le Parti québécois est quand même le sujet qui porte une forme de préjugé favorable dans la population.
Mais est-ce qu'il doit le porter de manière plus musclée? J'ai l'impression que PSPP semble un peu perdu. Je pense qu'il doit vraiment axer sur cet axe-là, là, sans me répéter, de l'identité québécoise. L'immigration, comme tu viens de le décrire, ce qu'on appelle la laïcité, là. Moi, je pense que c'est ça qui est l'axe à emprunter. Qu'est-ce que t'en dis?
Il ne peut pas ne pas aller sur ça, je crois. Ensuite, on verra. Il viendra mettre sa campagne comme il veut. Mais je pense que sur ces questions-là, ce sont les questions qui rejoignent passionnellement les Québécois aujourd'hui. Ce sont les questions qui, fondamentalement, touchent le cœur des Québécois quand ils demandent « Est-ce que le Québec va être encore Québécois dans 20 ans, 30 ans, 40 ans? »
C'est existentiel.
Et si on est indépendantiste, on n'est pas obligé de l'être, mais ce serait mieux de l'être. Si on est indépendantiste, on se dit que ces questions-là, aujourd'hui, ne peuvent pas trouver une traduction cohérente et forte à l'intérieur d'un Canada multiculturaliste, immigrationniste, un wokistan officiel.
Oui.
Donc, c'est, je pense, moi j'en suis convaincu depuis longtemps, c'est quand les Québécois vont voir le contraste entre les questions identitaires qui sont la volonté d'identité qu'ont les Québécois aujourd'hui, puis ce que devient le Canada, cette espèce de grand État post-national sans identité, multiculturaliste radical, bon, tout ça, là, c'est sur ce contraste-là que va se jouer la question nationale. Donc, il y a un espace pour le Parti québécois de croissance. Encore doit-il vouloir l'occuper. Encore doit-il l'assumer. Encore doit-il se dire que je me contrefiche de ce que dira Radio-Canada. Je pense que la vraie question, oui, c'est est-ce qu'on se soucie de ce que dira Radio-Canada?
Oui.
Est-ce qu'on se soucie de ce que diront les commentateurs officiels, les gérants de Radio-Canadiens?
Dont la presse aussi, la presse.
C'est la même maudite affaire, franchement. Oui. Pour moi, le complexe Radio-Canada de la presse. Donc, est-ce que le PQ est capable de se ficher? Si le PQ est capable,
oui,
de balayer du revers de la main ces espèces de pudeurs politiquement correctes sur les questions identitaires, il a, oui, je ne sais si c'est un boulevard, mais il y a beaucoup d'espace de croissance pour lui. Ensuite, on verra comment la campagne se tourne. Inversement, s'il se laisse coincer dans ce que j'appelle l'astrologie référendaire, c'est-à-dire le référendum aura lieu un jour de pleine lune en mars 2029,
oui,
seulement s'il fait beau.
C'est un piège.
C'est un piège. Et puis, l'indépendantiste que je suis, je me permets de le dire, mm-hmm, moi, je ne souhaite pas dans la vie un référendum à tout prix. Je veux l'indépendance du Québec. Oh. Donc, si je constate qu'on est dans une séquence où, pour mille et une raisons, les Québécois n'ont pas le... Ce sont à, je sais pas, 31, 32... Je pense que la période d'indépendance est plus élevée que ce que disent les sondages, mais on n'est clairement pas majoritaire. Si on est dans une séquence comme ça, l'idée, c'est d'affirmer l'identité québécoise et pousser toujours plus loin l'affirmation de ce que nous sommes. Viendra un jour, j'en suis convaincu, l'indépendance du Québec, mais se faire coincer dans une séquence d'astrologie référendaire, comme c'était le cas pour Mme Marois en 2014, serait regrettable. Donc, tu vois un peu la situation des cartes en ce moment. Chaque parti se présente avec ses forces et faiblesses, et avec ses comment dire, ceux qu'il porte. Quelques partis, par exemple, la CAQ, n'a plus de base militante. La CAQ a un système médiatique qui l'apporte, mais c'est à peu près tout. Le Parti libéral a sa base de l'électorat non francophone. Duhem a une vraie base conservatrice qu'il est parvenu à construire. Puis le Parti québécois, en plus de l'appui du vote souverainiste, est capable de porter les enjeux identitaires. Donc ça, c'est puis évidemment QS, on l'a dit, est dans les limbes. Si on regarde ça, ça donne un portrait de la campagne au début de la campagne. Ensuite, une campagne électorale, c'est 1000 pelures de bananes sur laquelle éviteras-tu. Mais j'ai l'impression que le début de la campagne ressemble à ça davantage que les spéculations de certains analystes en disant « Oh, on verra un gouvernement minoritaire, comme s'il voulait commenter, comme je l'ai dit dans ses comptes 27. »
Au plaisir de se reparler à toutes les semaines durant la campagne. Et après
merci
ça, ben, absolument.
Merci.
Bon retour en France, Mathieu.
Bye-bye.
Bye-bye. Salut. Mathieu Boccoté. Wow. Machine. Je pose une question. 10 minutes. Une autre question, 10 minutes. Là,
voilà.
Dan est énervé. Il lève. On est dans la merde. Parce qu'il faut gérer le temps. Il faut expliquer aux gens qu'on gère le temps.
Mais c'est surtout que le show est ultra chargé. Puis on a Mathieu Boccoté. Ça, ça me
moi,
fait passer.
J'adore.
À l'époque où on avait le one-two punch. Puis on chargeait le show au maximum. J'étais là, wow.
D'ailleurs, demain, prépare-toi, il y aura le retour du one-two punch avec Jean-Claude.
Je suis prêt.
Retour du one-two punch, mais avec Jean-Claude demain, une demi-heure. Prime Time, c'est la nouvelle mouture de Morais Live. Et ça ne fait que commencer.
Morais Live.
Extraordinaire.
Radio.
Si je peux dire comme ça.
Hic.